4 pages. Donc en une heure, j'ai lu, c'était comme ça, comme un couglotte à la crème de marron qu'on essaye d'avaler en 5 minutes, vous imaginez. Et à la fin, eh bien, je me souviens que tout le monde avait reçu un coup de maillet sur la figure. Bon, j'ai eu peur qu'il n'y ait plus personne la fois suivante. Et puis finalement, vous avez eu la gentillesse, enfin ceux qui étaient, ont eu la gentillesse de revenir, pour beaucoup. Mais je sais qu'il y a une personne qui m'avait dit « c'est trop pour moi hein, ». Bon, donc, voilà. Alors, l'idée, c'est de que vous ayez le temps d'une séance à l'autre de reprendre le cours et de voir s'il y a des questions qui restent et on les prend la fois suivante. Alors, aujourd'hui, enfin, allez-y, parce que je aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie du livre de la Genèse. Hein, le livre de la Genèse se répartit en deux morceaux bien, bien nets. Le récit des origines, chapitres 1 à 11, et ensuite l'histoire des patriarches. Voilà, 12 à 50. D'ailleurs, ces deux parties qui ne sont pas tellement égales, ce qui n'est pas très étonnant. La matière est différente, et puis là, il s'agira d'histoire, de récits. Ah, donc c'est beaucoup plus long, voilà. Mais j'espère que nous arriverons à en avoir les aperçus principaux. Au cours des 8 séances, je crois, que nous avons devant nous, eh bien, nous essaierons de parcourir ces histoires. C'est l'histoire d'une famille, finalement, la famille d'Abraham, que nous essaierons de suivre en nous intéressant particulièrement à Abraham, bien sûr, et puis Jacob et Joseph. Voilà. Alors, ce soir, comme je le fais en chaque début d'année, je donne une vision d'ensemble hein, sur l'histoire des patriarches et ensuite l'appel d'Abraham. Ce sera donc le pauvre Abraham perd un petit peu, parce qu'on doit laisser la place à l'introduction, mais j'espère vous donner quand même la substantifique moelle de ce que j'aurai à vous dire. Voilà. Encore une parenthèse sur les questions. Il y a deux types de questions. Il y a les questions de fond, les questions plus importantes qu'on peut poser soit en fin de séance, soit au début de la séance suivante. Ensuite, il y a des questions, parce que j'ai ma langue à fourcher, ou il y a un terme qui n'est vraiment pas clair. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à dire, là, on n'a pas compris. Hein. Mais très souvent, on se dit, c'est plutôt la question qu'on posera à la fin. Voilà, alors, l'histoire des patriarches, avec une présentation du texte et ensuite de la composition. Sa composition. Tout d'abord, le texte. Comme je vous l'avais dit pour la première partie du livre de la Genèse, et plus encore pour l'histoire des patriarches, les textes que nous allons lire ne suivent pas un ordre évident au premier regard. Il n'y a pas un plan très très organisé, ce qui est vrai d'ailleurs de pas mal de livres de la Bible. Mais là, on a quelquefois l'impression de passer d'un récit à un autre sans forcément voir le lien. Il y a des retours en arrière, il y a ce qu'on appelle des doublons. On va voir une histoire et puis ensuite à peu près la même histoire, mais juste avec des personnages différents. On ne comprend pas forcément pourquoi, etc. Là, ça, on a beaucoup de surprises. Hein, par exemple, l'histoire d'Abraham qui va en Égypte avec sa femme et il essaye de montrer que c'est finalement c'est pas elle. Et puis il va se faire mettre à la porte. Eh bien, cette histoire va se répéter. On va l'avoir une deuxième fois. On ne comprend pas forcément pourquoi. Ou au début de l'histoire de Joseph, vous avez l'histoire de Joseph qui va se faire vendre comme esclave. Et paf, on quitte Joseph pour raconter une histoire un peu curieuse autour de Judas, hein, une histoire un peu sordide. Et puis, on va revenir à Joseph. On se demande pourquoi l'histoire de Judas se trouve à cet endroit-là, hein, etc. Alors, la première raison qui vaut pour à peu près tout l'Ancien Testament, c'est qu'il y a plusieurs sources. Je vous avais parlé des sources. Les livres n'ont pas été composés d'un seul jet, d'un seul tenant, mais c'est le résultat de toute une histoire. Je compare assez souvent les livres bibliques à une église je sais pas quoi, une église médiévale du sud de la France. J'ai vu ça souvent dans le sud de la France, c'est encore plus net que dans le nord. On voit des morceaux de construction paléochrétienne, puis une partie romane qui a été rehaussée à l'époque gothique, et puis là-dessus, à l'époque baroque, on a construit la façade. Et voilà, ça vous fait tout un ensemble composite, qui d'ailleurs, quelquefois, peut être assez joli, mais on peut pas imaginer que tout cela était composé d'un seul tenant. Alors, résultat est sûrement très beau. Mais on voit qu'il y a plusieurs sources. Eh bien, il en va de même dans les livres bibliques. Alors, je vous avais présenté l'hypothèse documentaire. Je ne vais pas le refaire maintenant. Je l'avais fait l'an passé. Si certains ont besoin d'éclairage, ben, vous pourrez le mettre comme question pour la prochaine fois. Mais j'essaie d'aller vite. Plusieurs sources du Pentateuque. Alors, l'hypothèse documentaire qui, j'ajoute aussi, est extrêmement discutée. Notamment pour ce qui concerne ce qu'on appelle la source yaviste, censée être la plus ancienne, qui aujourd'hui n'existe quasiment plus, mais qui est une sorte de chapeau qui permet de mettre un certain nombre de textes, donc c'est utile d'en parler quand même. C'est utile parce qu'il n'y a rien pour l'instant qui soit satisfaisant pour remplacer ces sources qui n'existent plus. Voilà. Donc cette source yaviste, ces textes qu'on attribue à l'ancien Israël autour de Jérusalem, qui parle de Dieu comme avec le nom, le tétragramme. En gros, voilà ce que l'on peut dire. Donc, il y a cette source yaviste, ou ce que nous en avons fait. Ensuite, de façon peut-être plus visible, la source éloïste, qui est davantage... C'est une source qui est liée au nord d'Israël, le royaume du nord, où on a gardé les souvenirs de Jacob, l'histoire de Jacob. D'ailleurs, le nom de Jacob, c'est le nom qui est donné aux tribus du nord, Israël, Jacob, les tribus du nord. Donc c'est ce qu'on appelle la source éloïste, qui est un petit peu plus tardive que la source yaviste. Et puis la source sacerdotale. Alors la source sacerdotale, qui est très axée sur la question de l'alliance, du culte, les généalogies, l'identité d'Israël autour de Jérusalem, alors qu'on va trouver de façon très très forte autour d'Abraham. C'est le retour d'exil, donc le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors elle est intéressante, cette source sacerdotale, on la repère un peu mieux, vous vous souvenez, on l'avait vu à propos du livre de la Genèse, le récit de la création, quand il y avait le calendrier, qui avait les 7 jours de la création, avec une tonalité liturgique assez forte. Évidemment, la liturgie, ça intéresse les prêtres, la liturgie du temple. Vous vous souvenez, Genèse 1, c'est ce qu'on appelle l'auteur sacerdotal. Et l'auteur sacerdotal, on lui doit, alors en fait, c'est pas un auteur, c'est toute une école, c'est tout un ensemble, c'est toute une époque. Eh bien, l'auteur sacerdotal, on lui doit aussi une refonte des textes du Pentateuque. Une refonte complète. Donc on peut dire que le Pentateuque tel que nous le lisons, les 5 livres de la loi, nous les devons à cette source sacerdotale, qui est plus qu'une source, qui est aussi un compilateur, un éditeur, etc. Alors tout ça, c'est ce que dit l'exégèse critique, qui s'intéresse à l'histoire du texte, à l'archéologie. Comme je l'ai l'exemple de l'Église tout à l'heure, avec une partie paléochrétienne, une autre romane, une autre gothique, une autre baroque. Ça, ce sont des âges différents qui vont donner un seul bâtiment. De même pour les livres bibliques, plusieurs âges qui vont donner un livre ou un texte. Eh bien, l'exégèse critique nous a aidés à repérer qu'il y a une histoire. Et c'est souvent très éclairant de comprendre cette histoire. Ça va expliquer que dans certains textes, alors on l'a moins dans le livre de la Genèse, mais on va avoir une loi qui va dire « voilà comment fêter la fête de Pâques ». Et puis après, un peu plus loin, on va avoir une loi qui va dire « faut la fêter, mais de manière différente ». Tiens, c'est bizarre, c'est un peu contradictoire. Oui, mais on a 2 époques de rédaction et on voit qu'il y a eu des rectifications ou des précisions, etc. Voilà. Alors je m'arrête sur cet aspect. Je termine avec cet aspect et j'en viens à la question, à l'approche non plus diachronique mais synchronique. Synchronique, alors diachronique c'est à travers le temps, à travers l'histoire. Synchronique, ça veut dire le texte dans son état final, tel que nous le lisons aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, ce qui intéresse l'Église en fait, c'est surtout le texte dans son état final, ce qu'on appelle le texte canonique tel qu'il nous est donné, le canon des Écritures et le texte tel que nous le lisons. Évidemment, l'approche critique est nécessaire quand on étudie L'Église demande véritablement, quand on étudie la Bible, d'avoir recours aux méthodes critiques, c'est très clair. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est le texte dans son état final. Et à la fin du XXe siècle, dans l'exégèse, nous avons bénéficié de méthodes et d'approches synchroniques qui sont attentives au texte dans son état final, dans le texte, dans ses dimensions rhétoriques, poétiques, narratives, la qualité littéraire du texte, même avec la couture qui a été faite entre deux morceaux de dates différentes, eh bien, on arrive à un résultat qui finalement a une véritable cohérence qu'on arrive à découvrir avec ces méthodes, notamment au plan narratif. On voit que les choses ne sont pas mises ensemble par hasard, pas du tout par hasard. Il y a une profonde cohérence qu'on découvre notamment grâce à ces méthodes, je pense notamment à les méthodes narratives. Voilà. Alors, on essaiera de lire les textes pour eux-mêmes. Chaque texte, chaque récit, par exemple l'histoire de départ d'Abraham que nous allons étudier aujourd'hui, quand nous lirons l'histoire de Joseph, vous verrez, il y a Joseph vendu par ses frères. Bon, c'est une histoire tragique, mais qui nous raconte déjà quelque chose. Mais on voit que chaque texte doit être rapporté à une cohérence plus grande, plus large, l'ensemble auquel il appartient. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure, l'appel d'Abraham, le départ d'Abraham, c'est un texte qui a un certain intérêt, mais évidemment, il prend son sens par rapport à toute l'histoire d'Abraham. Chapitre 12 au chapitre 25. Voilà. Et puis plus largement, le texte doit être reporté à la cohérence plus large qui est celle du livre de la Genèse ou du Pentateuque. Vous voyez, il y a plusieurs niveaux de lecture, mais on doit toujours resituer un texte par rapport à l'ensemble. Ça, c'est vraiment important, et ultimement, la cohérence la plus grande, c'est celle de toute la Bible, des Écritures. Ce qui fait sens, c'est toutes les Écritures. C'est pour nous, notre foi, elle est exprimée non pas dans un texte, mais dans l'ensemble des Écritures, qui intègrent quelquefois des contradictions apparentes, des heurts, des incohérences. Voilà, il y a cette cohérence plus haute que l'on perçoit quand on lit l'ensemble des Écritures. Alors, maintenant, la composition des textes, enfin de l'ensemble que nous allons lire. Alors, ce n'est pas une composition très, très compliquée, c'est plutôt une suite de récits. Je vous ai mis une petite note sur le terme de saga. Alors, pourquoi ai-je écrit cela? C'est pas pour faire cuistre en disant c'est bon, on emploie un mot employé par les exégèses, donc ça fait bien. Dans un salon, vous pourrez dire oui, évidemment, dans la saga d'Abraham. Là, vous verrez un exégète dans la salle, vous êtes au courant du terme de saga, mais bien sûr, vous verrez de quoi il s'agit. C'est un terme scandinave, les exégètes scandinaves. Alors, dans les livres d'exégèse, vous verrez souvent ce nom-là, et c'est bien de savoir, en gros, c'est la même chose qu'un récit, mais appliqué spécialement à la geste des patriarches. La saga, dans les traditions du Nord, c'était les histoires familiales qui expliquent, par lesquelles on essaie d'expliquer le présent. Je ne sais pas si vous avez vos propres sagas familiales, mais en tout cas, il y a la saga d'Abraham. Quelquefois, c'est vrai qu'on dit que c'est un peu une saga. Ça a pris un autre sens. Voilà. Alors, il y a quatre grands patriarches sur lesquels nous allons nous arrêter. Et bien sûr, l'histoire d'Abraham et Sarah, qui comprend à la fois des récits indépendants et des grandes unités narratives, par exemple les chapitres 18 et 19, quand les trois personnages s'arrêtent sous l'arbre, et puis l'hospitalité d'Abraham, et puis ça se poursuit avec l'histoire de Sodome. On connaît bien tout ça, les chapitres 18, 19, tout ça, ça fait une certaine unité. Voilà, puis des passages plus courts, mais on doit bien sûr concevoir tout cet ensemble dans son unité, avec différentes origines, yaviste, éloïste et sacerdotale. Ensuite, l'histoire d'Isaac, qui a moins d'importance, des récits qui ont des parallèles avec l'histoire d'Abraham. Je ne crois pas avoir prévu de vous en parler beaucoup. Vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de cours particulier sur Isaac, on l'évoquera, mais le personnage lui-même n'est pas véritablement mis en avant pour lui-même. Ensuite, l'histoire de Jacob. Alors, Jacob, lui, c'est un monument. Il faut arriver à le suivre. Je pense que vous l'aimerez bien. parce que Jacob, c'est un personnage un peu impossible à vivre, avec plein de coups tordus, plein de d'ailleurs, son nom veut dire... Alors, ceux qui s'appellent Jacques, je les rassure, Jacques, ça veut dire Dieu qui protège, hein, Dieu qui accompagne, voilà. Mais il y a une étymologie qui est faite dans la Bible, hein, qui est moins flatteuse, hein, qui est de dire c'est le talon, hein. Ça veut dire aussi le supplanteur ou le menteur. Hein. Donc c'est sympathique pour... voilà. Alors heureusement, c'est la première interprétation qui est bonne. Mais n'empêche que Jacob, c'est le tordu. Hein. Et puis on verra comment le tordu, eh bien, Dieu va progressivement le détordre. Hein, et comment il va, au contraire, finir dans cette bénédiction de Dieu et comme porteur de bénédiction. Hein, mais au terme d'un cheminement assez impressionnant. Hein. Donc ça, c'est une histoire qui est extrêmement parlante. Voilà. Et puis l'histoire de Joseph, hein, un long récit, hein, qui est un peu comme un petit roman, ce qu'on appelle une nouvelle. Hein. Alors, autant l'histoire de Jacob, enfin, c'est avec ses rebondissements et tout, autant l'histoire de Joseph, il y a quelque chose de très unifié, voilà, avec, pour évidemment, dans une lecture chrétienne, beaucoup de résonances qui pourront nous parler. La question de la paternité, de la fraternité, la question de la sagesse, etc. Et les chapitres 49 et 50, hein, alors qui nous montrent qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, parce qu'on va assister à la mort de Jacob, hein, et puis de Joseph, mais ça concernera non pas simplement l'histoire de Jacob et de Joseph, mais finalement tout le Pentateuque. Hein, c'est très intéressant. On voit ces plusieurs niveaux de lecture. Hein. Finalement, l'histoire de Joseph, c'est à la fois l'histoire d'un personnage, mais aussi l'histoire de sa famille, et finalement l'histoire de toute la Genèse. Donc il faut s'habituer à ces niveaux de lecture. Voilà. Ça va, vous me suivez? Vous n'êtes pas complètement assommé? J'ai pas encore réussi? Bon, on va voir si j'y arrive. C'est pas le but. Allez, c'est parti, l'appel d'Abraham. Alors, nous sommes partis pour le chapitre 12, et en fait... uniquement les versets 1 à 9. Hein, j'avais souhaité à un moment vous dire quelques mots sur la suite, parce que c'est très très intéressant, mais dans le déroulement de l'exposé, je pense que c'est moins nécessaire, donc je m'arrêterai surtout sur l'appel d'Abraham en lui-même. L'unité de l'histoire d'Abraham est contenue dans l'appel et la promesse qui lui est liée. Hein. Que nous connaissons bien, un des passages de la Bible que nous connaissons le mieux, « Quitte la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai, je ferai de toi une grande nation. » Voilà, en résumé, hein, cette parole qui va marquer le destin d'Abraham et toute l'histoire qui suivra. À la fin de cette histoire, à la fin de ce récit qui commence... avec ce verset, eh bien, nous verrons naître la descendance par laquelle s'accomplira la promesse, hein, que Dieu lui a faite. Et entre les deux, Abraham aura traversé avec Sarah bien des obstacles. Hein. Et on voit comment Dieu l'a accompagné. C'est vraiment ce qui est peut-être le fil directeur de l'histoire d'Abraham, c'est que Dieu accompagne Abraham à chaque instant. Alors même qu'Abraham lui montre son obéissance. Je cite un auteur, un excellent auteur, je ne sais pas commenter la bibliographie qui vous a été remise, mais vous verrez à deux reprises le nom de André Wénin, hein, qui est un jésuite belge, qui est un excellent exégète, spécialiste de narrativité, et qui a fait un très beau commentaire dans les cahiers évangiles sur l'histoire d'Abraham. Hein, et il dit « Le récit tire moins sa cohérence d'une crise à résoudre que de la relation que Dieu tisse progressivement avec Abraham. » Vous savez que dans les récits, dans la Bible, mais de façon habituelle, quand vous lisez un roman, très souvent, il y a une crise qui doit être surmontée, quel que soit le roman que vous lisez. Si vous lisez, je ne sais pas, La Chartreuse de Parme de Stendhal ou le Lion de Joseph Kessel, par exemple, hein, vous allez voir qu'il y a une espèce de tension, et puis on va voir comment ça va se dénouer, hein, de façon dramatique, ou au contraire, de façon heureuse. Hein, voilà, c'est le propre du roman, du récit. Il faut toujours qu'il y ait une tension autour d'une crise. Hein. Dans l'histoire d'Abraham, hein, il y aura bien une tension qui va être celle de la question de la descendance, mais ce qui va compter essentiellement, l'élément majeur, c'est la manière dont Dieu accompagne Abraham. On est véritablement Hein, alors même que on ne voit pas Dieu apparaître, on a l'impression qu'en négatif, c'est bien Dieu qui est le personnage principal. Hein. Voilà. L'itinéraire d'Abraham va se traduire par un changement de nom. Hein. Abraham, qui veut dire père élevé en hébreu, hein. Ab, le père, Ram, la hauteur, Rama. Hein, vous savez qu'un endroit qui s'appelle Rama, hein, ça veut dire un endroit élevé. Hein, en Israël, il y a pas mal de villes comme ça qui ont le nom de Rama, Ramataïm, par exemple. Pardon ? Ramallah. Alors Ramallah, c'est. Je suis pas sûr que ça se. Parce que Rama suivi de quelque chose d'autre. Voilà, mais c'est de l'arabe. Et du reste, c'est les mêmes racines qu'en hébreu. Mais en tout cas, en plus, oui, c'est ça. Voilà, mais Abraham, hein. En arabe, Rama, il y a aussi l'idée que c'est la hauteur ou pas, non ? Ce qui est élevé, vous ne savez pas. Voilà. Et Abraham, alors la prononciation n'est pas facile, Abraham va recevoir le nom d'Abraham. D'accord ? Hein, quand on dit Abraham, et puis on ne fait pas la différence entre Abraham et Abraham. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je prononcerai Abraham, comme d'habitude, Abraham, en insistant sur le A, parce qu'on est habitué, mais j'ai écrit Abraham tel qu'il apparaît dans le texte, pour bien marquer que pour l'instant, il s'agit du père élevé. Abraham, j'expliquerai ce nom plus tard, le père d'une foule, qui est une explication, ce sera le basculement de la vie d'Abraham, hein, au moment de la conclusion de l'Alliance. Je commence en disant quelques mots sur Abraham et sa famille. Ensuite, nous verrons la promesse de bénédiction, qui est le cœur. Voilà. Et puis, troisièmement, la foi d'Abraham. Abraham et sa famille. Alors, c'est très intéressant parce que le récit, l'histoire d'Abraham, est comme un nouveau démarrage, un nouveau départ, évidemment. On va partir dans quelque chose de nouveau, mais il ne s'agit pas d'un commencement absolu. Nous recueillons l'héritage de tout ce qui a été écrit, et ceux qui étaient là l'an passé se souviennent que nous avons parlé de la question de la vie et de la mort avec le déluge, avec ceux qui ont survécu, hein, Sem, Cham et Japhet, avec leur père Noé, et puis à partir d'eux, eh bien, toute une descendance qui va peupler la terre. Un peuplement qui va se faire d'une manière un peu compliquée, hein, et ça va se terminer avec la tour de Babel où Dieu va disperser l'humanité parce que elle était en train de prendre un mauvais chemin. Hein. Donc il y a bien une histoire et nous sommes au terme de cette histoire qui a été racontée et elle est bien présente dans le début de l'histoire d'Abraham. Hein. Il y a une généalogie après la tour de Babel très intéressante. Une généalogie qui va resserrer le faisceau sur un peuple, et puis une famille, et puis un personnage. Hein. Ça avait été, vous vous souvenez, hein, je vous avais parlé de ce phénomène, il y avait eu Noé, qui est le départ d'un renouveau de l'humanité, Noé, Sem, Cham et Japhet, avec leur généalogie ça va s'étendre, donc il y a le peuplement de la terre, comme ça se passe mal, eh bien la généalogie va se resserrer, avant d'arriver à Abraham. Il s'agit bien de toutes les nations de la terre. Vous vous souvenez, Sem, Cham et Japhet étaient les seuls fils de Noé, seuls survivants du déluge. Donc, c'est bien toute l'humanité qu'il s'agit. Alors, la généalogie va se centrer, comme je viens de vous le dire, sur les descendants de Sem, hein, qui est l'origine du nom sémite, hein, c'est-à-dire tous les peuples, en gros, de l'Orient. Hein, il faut arriver à distinguer, comme on nous y est habitué, l'idée que Sem, ce serait une question de race. Hein, c'est davantage un peuplement sur une zone. Et le terme de sémite va s'appliquer davantage à des questions de langue. Hein, il y a les langues sémites, la langue acadienne, par exemple. Hein, aujourd'hui, on a l'hébreu, l'arabe, etc. Hein, les araméens, etc. Voilà. Donc, les Sémites, hein, dans cette région, il y aura les descendants de Japhet et de Cham qui seront sur d'autres zones de peuplement. Hein. Et au sein des descendants de Sem, il va y avoir, la généalogie va se resserrer jusqu'à Nahor, puis son fils Terah, le père d'Abraham. Voilà. Donc, de nouveau, nos yeux se fixent sur un point de la surface de la Terre. La question de la vie, qui est une question centrale dans le livre de la Genèse, la question de la vie est posée depuis l'origine, depuis la création, depuis que Adam et Ève ont été en état de procréer, depuis qu'elle a été rappelée de façon douloureuse avec le meurtre de Caïn, et puis avec le déluge, et puis la vie qui va redémarrer. La vie qui a quand même réussi à se transmettre de génération en génération, de façon plutôt heureuse, à 8 reprises. On voit au chapitre 11, il est dit « Un tel engendra » ta, 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 et puis la conclusion « Il engendra des filles et des filles ». Et puis un autre « engendra » et « Il engendra des filles et des filles ». Donc ça va continuer comme ça. Et puis à la fin de cette transmission de la vie, on arrive avec les trois fils de Terah. On a l'impression que cette généalogie s'épuise. La transmission de la vie arrive à un épuisement, un peu comme un arbre qui a donné tout ce qu'il pouvait, et bien à la fin il ne reste que quelques fruits, quelques feuilles sèches, et puis avant que l'arbre ne meure. Donc, trois personnages, trois frères, Abraham, Haran et Nahor, les fils de Terah. Mais qu'est-ce qui est dit de ces trois personnages? C'est là que l'exégèse narrative est intéressante, parce qu'elle va s'intéresser à ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, à la manière dont les choses sont dites. Tout d'abord, Abraham, il est l'époux d'une femme stérile, Sarai, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Haran engendre un fils, Lot, mais il meurt aussitôt après. Nahor est marié, mais rien n'est dit d'une quelconque progéniture. La seule chose que l'on sait, c'est que sa femme est la fille de Haran, c'est-à-dire qu'elle est sa nièce, et donc on est dans un cas d'endogamie qui n'est pas le meilleur signe d'une ouverture vers la vie. Voilà. Alors, sur le terme d'endogamie, je crois que ça ne s'applique pas que au mariage dans la famille, mais dans la même tribu, mais c'est quand même pas un signe de vie débordante. Malgré la naissance de Lot, on a véritablement un sens d'enfermement, un sentiment d'enfermement dans un cercle où règne la stérilité et la mort. Donc le problème de la mort est posé, et on le verra de façon assez forte au début de cette histoire d'Abraham. Au centre, il y a Terah, et donc c'est toute une problématique qui va être liée à la problématique de la mort, c'est le fait que on retrouve cette humanité qui est centrée sur elle-même. Tout est centré sur Terah. Tout se réfère à lui. Il prie son fils Abraham, son petit-fils Lot et sa bru Sarai. Le texte hébreu emploie bien ces pronoms possessifs. Son fils Abraham, son petit-fils Lot et sa bru Sarai. Alors il est le centre de la famille. Il est dit qu'il prend, prendre sa famille, comme il prendrait des objets avec lesquels il partirait. Comme si personne n'avait d'autonomie. La Bible a bien d'autres ressources pour dire, par exemple, Abraham, Lot et Sarai partirent avec leur père, leur grand-père, etc. Donc là, il y a bien un choix du narrateur. De tout centrer sur Terah. Donc, vous voyez, comme Terah est le centre de tout, et qu'il y a la stérilité après lui, eh bien, on est véritablement dans un climat de mort. Il se déplace jusqu'à Haran, ce qui veut dire que le début de la migration d'Abraham ne sera pas Our, mais Haran, qui est plus au nord. Mais là aussi, quand il arrive à Haran, le cercle va se refermer. Après s'être établi dans ce pays avec sa famille, eh bien, il meurt. Voilà le cadre dans lequel nous sommes. Nous comprenons la force des paroles que le Seigneur va adresser à Abraham dans cet appel qui nous est rapporté au début du chapitre 12. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Alors je m'arrête tout de suite, bien que ce ne soit pas... Je regarde parce que comme mon téléphone me fait des mauvaises histoires, ça va. Et l'horaire n'est pas mauvais. Je m'arrête sur un point qui n'est sûrement pas le point essentiel du récit, mais qui, dans la perspective de la lecture de la Bible, avec une finalité, j'allais dire spirituelle, d'une lecture qui nourrisse notre vie, qui prend une certaine importance. Hein. Un point que la lecture contemporaine a beaucoup mis en avant. Hein. Les premiers mots que le Seigneur adresse à Abraham, c'est « quitte ton pays », littéralement, c'est « va pour toi ». Ou va vers toi. Est-ce qu'il y en a qui ont fait un petit peu d'hébreu ou qui ont lu une fois ou l'autre de l'hébreu? Non. Donc si je vous dis en hébreu, ça fait un peu cuistre. Alors est-ce que je peux vous le dire sans faire cuistre?
Oui.
D'accord. Voilà. Parce que ça aide. Voilà. Quand on comprend l'hébreu. L'air, le ra. D'ailleurs, c'est presque la même chose. L'air, le ra. L'air, c'est l'impératif de alar qui veut dire aller. J'aimais beaucoup ce mot-là parce que quand on apprenait les listes de verbes en hébreu, je vais aller à l'art. Voilà, ça ressemble, donc c'est facile à mémoriser. L'air, va. Le ra. Le, ça veut dire la direction. Le. Arnaud Olrim, l'Irushalayim, vers Jérusalem. Hein, le, elle. Et le ra, hein, c'est. Ra, c'est, ça veut dire toi. Va pour toi, va vers toi. Alors en hébreu, cette forme « va pour toi » ou « va vers toi », c'est une forme intensive. « Va, oui, toi. »« Va, oui, toi. » Mais une lecture telle que les sciences modernes nous permettent de la comprendre, permettent de voir que la traduction « va vers toi » est également possible. « Va vers toi », c'est-à-dire ce que tu es, eh bien c'est ce que tu vas devenir. C'est ce que tu vas devenir. Et vous voyez comment, juste avant, on disait tout était centré autour de Terra. Voilà. Hein, il était au centre de tout. Hein, et donc, c'est la mort. Eh bien, pour Abraham, Dieu va prendre Abraham et va lui donner un avenir. Va vers toi, vers une autre vie que je veux pour toi. Donc, c'est le point de départ d'un itinéraire que nous allons essayer de découvrir. Va vers toi. Très intéressant, parce que ça veut dire que pour nous, notre existence n'est jamais écrite à l'avance. Ça, c'est dans une perspective chrétienne, c'est très très important, la perspective biblique. C'est pour ça que quand on dit « il ne faut pas juger quelqu'un », c'est bien sûr parce que Jésus le demande, puis saint Paul le reprend, et parce que Dieu seul connaît les cœurs, mais aussi parce que dans la Bible, si la dignité de la personne est donnée dès sa naissance, la personne ne s'enferme jamais dans ce qui a été donné au départ. Et elle est appelée à devenir, eh bien pour Abraham, devenir une bénédiction, devenir un grand peuple, une source de vie. Alors que Abraham est marqué par la mort. Hein? On va voir quand il est âgé, avec une femme stérile, etc. Mais Dieu a un « pour toi » qui lui réserve. L'homme est engagé dans une histoire. Et Dieu seul en connaît le terme et la vérité. Ça rejoint l'expérience psychologique que nous faisons tous, que nous avons tous fait quand on était... Souvenez-vous, hein, c'est pas si ancien, quand on était ado. Hein, quand on disait « mes parents n'y comprennent rien ». Parce qu'évidemment, les habitudes familiales, nous nous enfermons mutuellement dans ce qu'on connaît déjà. « Ah ben je sais bien ». Quand on a 16 ans, 18 ans, 20 ans, etc., on continue de... Voilà. Hein. Et puis l'ado dit, mais c'est pas ça du tout. Hein. J'ai d'autres aspirations. Et l'ado a raison. Hein. Et le Seigneur sait qu'il nous réserve quelque chose. Bon, c'est encore une parenthèse, hein, mais c'est important de le comprendre. Hein. Ce l'air le rat est un enjeu absolument colossal. Dieu se réserve le droit de façonner l'humanité selon son bon vouloir, c'est-à-dire selon un dessein de charité, de sainteté, hein, que l'homme ne perçoit pas. Voilà. Donc, on ne peut pas enfermer la personne dans ce que nous savons d'elle. Va vers toi. Il s'agit, cet itinéraire, là, je lis, une fois qu'on a compris ça, on a compris presque toute l'histoire d'Abraham. Alors ensuite, on va voir, parce qu'il y aura des rebondissements. Il s'agit de quitter. Alors, la traduction « quitte ton pays », vous avez remarqué que ce n'est pas exactement ce qui est dit en hébreu. En hébreu, c'est « va vers toi ». Va, toi, vers le pays que je t'indiquerai. Mais évidemment, il y a bien l'idée de quitter, hein, puisqu'il s'agit de, en fait, en hébreu, c'est « va depuis hein, », c'est le « mine hein, », « va depuis ta famille, depuis ton pays hein, ». Voilà, et qu'on peut traduire par « quitte ton pays hein. ». Donc, il s'agit de quitter la maison de ton père. D'ailleurs, on se souvient, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme pour faire un nouveau projet. Hein. Donc il s'agit bien de quitter pour se trouver soi-même, là où Dieu nous conduira, hein, dans le pays que je t'indiquerai. Ça va, ça ?
Oui.
Hein, c'est... Voilà. Dieu annonce à Abraham qu'il le bénira et qu'il en fera une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Voilà, en très résumé, la promesse que Dieu lui fait. Il lui fera d'abord le don d'une bénédiction hein, dont le signe sera sa nombreuse descendance. Mais évidemment, pour quelqu'un qui est âgé et qui a une femme stérile, quand le Seigneur dit « je te bénirai » et dans la Bible, la bénédiction, c'est donner une descendance, Abraham dit ben, « je suis heureux de t'entendre hein ». On ne l'entend pas beaucoup parler, mais il dit ben, « plutôt rassuré enfin, ». On imagine, mettez-vous dans la peau d'Abraham quand on voit tout ce qui précède, la manière dont c'était raconté avant. Hein. C'est un écho, là, tout simplement, de la bénédiction originelle que Dieu avait adressée à l'homme et la femme quand il les avait créés. Hein. Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre. Vous vous souvenez, Genèse 1, verset 28. Et ensuite, il avait renouvelé cette bénédiction après le déluge. C'est-à-dire que même la mort, même le péché, n'a pas supprimé la bénédiction originelle. Donc les plans de l'homme ne peuvent pas contrecarrer, ou plutôt les actions des hommes ne peuvent pas contrecarrer le plan de Dieu. C'est un plan de bénédiction. On a l'impression que Dieu dit, allez, avec Abraham, on va prendre les moyens pour que ce plan de bénédiction réussisse. Voilà. Et la promesse que Dieu fait à Abraham, de façon personnelle, va s'élargir. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Donc vous avez vu, une bénédiction à plusieurs détentes. Dieu bénit Abraham, en lui promenant une descendance, ça veut dire que la descendance elle-même sera porteuse de cette bénédiction. Et cette bénédiction, elle sera pour toutes les nations de la terre. Abraham, ses descendants et les nations de la terre. Abraham n'est pas appelé pour lui-même. On voit le contraste avec ce qui précédait. Le personnage qui se met au centre de tout. Abraham n'est pas appelé pour lui-même, mais pour toutes les nations de la terre. Les nations auront part à la bénédiction si elles bénissent Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Si quelqu'un bénit Abraham, même un païen, et on le verra d'ailleurs, on verra Melchisédek par exemple, qui est le roi de Salem, qui est un païen, hein, mais qui va donner la bénédiction à Abraham. Les païens auront droit à cette bénédiction s'ils bénissent Abraham, c'est-à-dire s'ils reconnaissent en lui le béni. Celui que Dieu a appelé. Je reconnais en toi l'élection de Dieu. Je reconnais en toi celui que Dieu a choisi. Ça va avoir des conséquences absolument considérables pour toute l'histoire biblique et jusqu'au Nouveau Testament. C'est lui que Dieu a choisi pour être l'instrument de la bénédiction. C'est ça, bénir Abraham. C'est pas lui dire, oh, mais t'es quelqu'un de gentil. Sinon, je reconnais en toi la bénédiction dont tu as été l'objet. Un rôle central qu'on peut déjà dire médiateur, hein, qui va être appuyé par la formule inverse, hein, selon un procédé tout à fait classique dans la Bible. Hein, je maudirai celui qui te maudira, ou je réprouverai celui qui te maudira. Dans la Bible, on affirme le positif et on ajoute le négatif. C'est le contraire aujourd'hui, on est capable de dire une chose et en même temps, on va dire exactement son contraire. Alors que dans la Bible, on va appuyer une affirmation par son opposé, mais pour l'appuyer. Aujourd'hui, on va dire, ah ben oui, c'est merveilleux, je suis avec toi pour toujours, mais je suis aussi avec quelqu'un d'autre pour toujours. Enfin, c'est toi que je choisis, mais je choisis aussi quelqu'un d'autre. Je suis avec toi pour toujours, mais le jour où ça s'arrêtera, eh ben, je ne serai plus avec toi pour toujours. Enfin, vous voyez, donc, il y a une espèce de contradiction. Donc, là aussi, il y a des conséquences qui vont être extrêmement importantes jusqu'au Nouveau Testament. Abraham, évidemment, ne sera plus là pour que la bénédiction atteigne les nations de la terre. C'est évident. Donc, on a bien compris que c'est par sa postérité, le peuple issu de ses reins, pour reprendre une expression de l'Épître aux Hébreux, mais qui a un style très biblique, c'est à travers sa postérité que s'accomplira la promesse. Le peuple issu d'Abraham, issu des reins d'Abraham, qui est une formule biblique pour dire engendré par Abraham, ce peuple sera porteur de la bénédiction. Israël sera porteur de la bénédiction, non à son profit, mais en vue d'une mission. Sa mission, ça va être d'être de génération en génération le signe de l'élection par laquelle Dieu va réaliser son dessein. Et donc là, ça ouvre une autre porte sur laquelle nous pourrions nous arrêter, c'est le rôle d'Israël à travers tout l'Ancien Testament et jusqu'à aujourd'hui. C'est une question très grave, très importante, mais quand l'Église aujourd'hui reconnaît son lien avec Israël, comme ça a été rappelé au Concile de Vatican II, de façon très très forte et encore plus forte avec le texte du pape Jean-Paul II, c'est pas parce qu'on fait de l'interculturel ou de l'interreligieux, mais parce que les chrétiens reconnaissent en Israël, ceux qui sont porteurs d'une bénédiction définitive et pour toujours, ceux qui ont été choisis par Dieu, ceux qui sont l'objet d'une élection, le moyen par lequel Dieu a voulu nous atteindre. Et aujourd'hui, les nations de la terre peuvent se réjouir d'avoir accès à cette bénédiction par la foi, comme le dira saint Paul. Mais ça ne supprime pas le rôle d'Israël. Sinon, ça veut dire qu'on fait de Dieu un menteur. Ta descendance, mais jusqu'à un certain moment. Or, Jésus ne dit pas jusqu'à un certain moment. Bien sûr, vous me direz, Jésus est véritablement le fils d'Abraham, mais Jésus n'apporte pas la stérilité avec lui. Il n'a pas stérilisé Israël. Pardon pour l'expression, mais c'est très important de le comprendre. Pardon de m'arrêter sur ce thème qui me semble très important, mais il y a beaucoup de choses qui sont dites de façon très erronée par rapport au rôle du peuple juif, et ça a conduit à des erreurs très graves. Et donc, il faut être très conscient de l'enjeu de ces paroles que Dieu adresse à Abraham, et un enjeu qui reste pour nous de grande actualité. Le peuple juif reste porteur, comme le dit saint Paul, Romains chapitre 11, de cette promesse de Dieu, de cette alliance, pour que les hommes, en voyant Israël, se disent « Oui, Dieu est capable de faire alliance et de rester fidèle. » On comprend alors quel sera le rôle de la famille du patriarche. Sa famille sera le cadre, le lieu d'un chemin de rédemption. On l'avait déjà vu d'ailleurs, on l'avait pressenti avec l'histoire de Caïn et Abel, comment quand Caïn avait tué son frère, Dieu avait donné les moyens pour qu'il arrive à survivre quand même. L'histoire d'Abraham, ça va être l'histoire d'une famille comme toutes les familles, avec toutes les difficultés que les familles peuvent connaître. On l'a vu juste avant. Je l'ai dit en introduction, la famille d'Abraham est un lieu de stérilité et de mort. Et sans employer ces mots de stérilité et de mort, on sait combien des familles que nous connaissons, dont nous faisons peut-être partie, connaissent cette douleur de, par exemple, de dire il n'y a pas d'enfant, ou la vie ne se transmet pas. Ça, c'est des questions très concrètes qu'affronte la Bible. Et puis, cette loi de mort, c'est imposé dans les relations humaines, on l'a vu depuis le Jardin d'Éden. Les relations hommes et femmes, convoitise et domination, vous vous en souvenez, hein, chapitre 3, en convoitise et domination, les parents et les enfants, hein, avec la question des douleurs de l'enfantement, la question des rapports entre les enfants eux-mêmes, hein, jalousie et violence, les luttes fratricides, qu'on trouve tout au long de la Bible et qu'on va voir dans l'histoire des patriarches. Tout ça, c'est l'histoire, on va raconter, la Bible va nous raconter, on va le voir, l'histoire des familles, l'histoire de nos familles, notre propre histoire. Et pourtant, il y a une bénédiction originelle qui a été donnée par Dieu, que j'ai évoquée tout à l'heure. Hein. L'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et donner la vie, et établir une unité, hein, pour qu'il y ait la vie et pour remplir la terre. Eh bien, cette bénédiction originelle n'a pas été effacée. Hein. Eh bien, à travers cette histoire tortueuse de la famille d'Abraham, la bénédiction va arriver à se frayer un chemin. Cela se fera au prix d'un renouvellement qui suppose que l'homme quitte sa famille, et c'est-à-dire une réalité naturelle qui lui est donnée mais qui n'est pas la fin de son existence, hein, surtout si sa famille devient un lieu d'enfermement qui mène à la mort. Ainsi, l'horizon universel, vous vous souvenez, au début du livre de la Genèse, il y a eu cet horizon universel qui s'était ouvert avec le récit de la création. Cet horizon qui s'était rétréci avec le péché. Qui s'est rétréci jusqu'à la famille stérile de Terra. Cet horizon va s'ouvrir de nouveau à partir de la mission confiée à Abraham et sa descendance. C'est-à-dire Dieu confie à Abraham le soin d'être une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Ça veut dire que l'universalisme de la Bible n'est pas un universalisme abstrait. On ne parle pas de l'humanité de façon abstraite. On parle des nations qui vont reconnaître la bénédiction de Dieu. L'universalisme biblique n'est pas un universalisme abstrait. Il se construit à partir d'une histoire singulière, hein, familiale, humaine, celle du peuple d'Israël, hein, qui est porteur de la bénédiction. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup entendre parler du message biblique, qui est un message universel. Hein, c'est ce qu'on a fait pendant le siècle des Lumières, et c'est pas étonnant que ce soit pendant le siècle des Lumières qu'on a dit on retient du christianisme le message de lumière, de liberté, de je sais pas quoi. Hein, on n'a pas besoin du Christ, on n'a pas besoin non plus du peuple d'Israël. Hein, et donc, ça a été l'antéchristianisme, mais aussi les bases de l'anti-judaïsme moderne, de l'antisémitisme moderne, parce que Israël est le signe insupportable pour beaucoup d'une élection de Dieu. C'est insupportable, un peuple qui nous rappelle qu'il a été choisi et qu'il est là pour sanctifier le nom de Dieu. On voudrait qu'Israël soit comme toutes les nations, qu'il s'aligne. Non, il y a au-dessus des lois des nations et des rois, il y a le Dieu d'Israël qui demande de sanctifier la vie de chaque jour. Alors, c'est insupportable. Le sort de l'Église est lié à celui d'Israël, mais le sort des Juifs a pris un tour très mauvais, finalement, avec les Lumières. Hein, Voltaire a quelques pages dans ce petit livret, pardonnez-moi d'égratigner Voltaire, mais vous me permettez un petit plaisir ? Vous êtes gentil, vous êtes bon. Hein, voilà. Vous savez, son traité sur la tolérance, quand il y a eu, je ne sais pas que, alors des attentats, évidemment, des choses épouvantables, on a voulu éditer le traité sur la tolérance, il était édité très rapidement, on n'avait juste pas vu que dans le traité sur la tolérance, il y a des pages épouvantables sur les Juifs. Hein, parce que les Juifs contrecarrent la vision de Voltaire, la vision des Lumières, sur ce type d'universalisme. Les Juifs rappellent que Dieu est intervenu dans l'histoire et que c'est lui qui conduit l'histoire. L'universalisme sans la Bible, plutôt sans Abraham, sans la descendance d'Abraham, c'est un universalisme abstrait qui veut soumettre l'humanité à un rationalisme, à une vision finalement purement humaine, sans horizon. Bon, je termine, parce que là, on appuie sur le bouton et je risque de rester trop longtemps, et ce n'est pas le sujet. Voilà, je termine, troisième moment, d'abord Abraham et sa famille, on peut dire le point de départ, ensuite la promesse, deuxième temps, le troisième temps, la foi d'Abraham. Hein. Abraham part aussitôt après avoir entendu l'appel, comme le lui avait demandé le Seigneur, sans opposer de résistance et sans marchander. Pour l'auteur biblique, Abraham est celui qui a cru, par excellence. Toute la Bible loue la foi d'Abraham. La caractéristique d'Abraham, c'est la foi. Mais une foi qui est ouverte à une espérance. Là, de ce côté-là, je pense à ceux qui, en ce moment, font la formation sur l'islam. La question de l'islam, on va dire, Abraham, c'est celui qui est la foi comme soumission. Voilà, je crois que Dieu est un, et puis je me tais. Non, bien au contraire, la vision biblique de la foi d'Abraham, c'est une vision dynamique. La foi d'Abraham, c'est de répondre à un appel, c'est d'aller vers un avenir, c'est d'aller vers un accomplissement. C'est un point de départ. La foi, c'est un point de départ. La foi est la garantie des biens qu'on espère. On lira l'Épître aux Hébreux. Voilà, le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux que je vous recommande de lire, de relire, de posséder, de maîtriser, c'est absolument central. C'est une relecture de l'Ancien Testament qui nous dit quelle est la signification de la lecture des Écritures. Je cite ce verset qui concerne Abraham. « Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. » Vous voyez comment la foi est un point de départ, une espérance. « Il attendait la ville pourvue de fondations dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » C'est très très beau. « La ville pourvue de fondations dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » C'est la cité céleste. C'est la cité de l'Apocalypse, l'épouse de l'agneau. À vue humaine, c'est vrai qu'Abraham sait que la situation est sans avenir, donc on peut dire il part, il n'a pas d'autre choix, donc il fait ça. En fait, non, c'est pas parce que sa situation est désespérée, il accepte surtout de faire confiance à Dieu, malgré l'inconfort dans lequel il va se trouver. Les pères de l'Église insistent beaucoup dessus, je crois que c'est le passage que je vous ai choisi, de ces Jean Chrysostome, il parle de ce risque qu'Abraham accepte de prendre. Dieu ne lui dit pas quel pays, et quel est le pays dans lequel il va le conduire. Aujourd'hui, quand on va passer ses vacances dans une ville de la Creuse, on sait quel est l'endroit où on va aller ? Et on a un GPS. Et avant, on avait une carte Michelin. Ce qui, au fond, était mieux. Parce que la carte Michelin, cet été, je vous garantis que j'étais sur mon téléphone, puis j'en avais assez de pu savoir. J'ai pris une carte Michelin et brusquement, tout s'est éclairé. Parce que le GPS, vous êtes toujours au centre, comme Terra. Vous êtes au centre de tout. Et c'est mortifère. Et ça, truc de Google, ça vous met toujours, toujours, toujours au centre. C'est très intéressant. La carte Michelin ou IGN, elle vous met par rapport à un espace qui reste le même. C'est donc beaucoup plus intéressant. Encore une parenthèse, vous allez dire, décidément, c'est le cours des parenthèses. Voilà. Mais c'est intéressant, c'est important, parce que Abraham, lui, il n'est pas au centre du GPS. Abraham, il est sur une carte que Dieu connaît. La carte, c'est le plan de Dieu. La carte IGN, pour Abraham, ça ne va pas être un plan de route très précis, c'est écouter ce que Dieu lui demande. Abraham ne pourra avancer et ne pourra arriver au terme de la route que s'il est à l'écoute de Dieu. Alors ça, c'est un point théologique et spirituel qui est fondamental. Pars vers le pays que je t'indiquerai. Abraham pourrait dire à Dieu, t'es bien gentil, mais enfin, le pays que je t'indiquerai, je te le dirai en temps voulu. Oui. Donc Abraham dépend à chaque pas de l'écoute de la parole de Dieu. Il accepte finalement une certaine fragilité, puisqu'il n'aura pas d'assurance, il ne possédera pas son assurance. Il est nécessairement dans une disponibilité pour écouter la parole. L'itinéraire d'Abraham, itinéraire spirituel, ce sera celui de l'écoute, ce qui veut dire aussi de l'obéissance, parce que dans la Bible, écoute et obéissance, c'est le même mot, schéma, encore de l'hébreu, schéma Israël. Dans la Bible, on n'écoute jamais pour ne pas agir. Quand on écoute, c'est pour obéir. Schéma, ça veut dire écouter et mettre en pratique. On se souvient qu'au début de l'histoire de l'humanité, Adam et Ève étaient dans le pays que Dieu leur avait donné, comme Abraham, ils étaient dans un pays, ils étaient bien installés. Donc c'était bien, il y avait des fruits, il y avait des arbres, il y avait des quatre fleuves, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais ils n'ont pas écouté Dieu, ils ont désobéi, vous vous souvenez de ça. Ils ont faussé la parole de Dieu. Alors Dieu vous a dit. Donc il y a eu un mensonge sur la parole de Dieu. Eh bien Dieu va reconquérir l'humanité en recréant la capacité d'une écoute. Et ça va se faire avec Abraham. L'obstination des hommes à rester sourds envers Dieu en a fait des errants, vous vous souvenez, hein? On avait vu ça l'an passé. Caïn séjourna au pays de Nod. Et je vous avais dit que Nod, ça veut dire le pays de l'errance. Hein? Le pays de l'errance. Donc c'est une sorte de paradoxe ou de... qu'on appelle ça de quelque chose impossible. Hein? Il séjourne au pays de l'errance. Ça veut dire que la vie de l'homme devient la vie d'un errant qui ne sait pas où se poser. Hein? Il n'est pas dans l'écoute de la parole de Dieu, donc il n'est pas là où Dieu veut lui donner la vie. Hein? Abraham, lui aussi, va être un errant, comme ses ancêtres. Mais la nouveauté avec Abraham, c'est que comme il écoute, eh bien, Dieu lui donne un but. Il sait désormais que son errance ne sera pas vaine. D'une certaine manière, on peut dire que Dieu fait de son errance un pèlerinage. Vous voyez, c'est, on peut dire que la transformation qu'opère Abraham, c'est que l'humanité qui erre, ne sachant pas où aller, eh bien, trouve enfin une direction, et c'est Dieu qui va la lui donner. Et pour comprendre cette direction, eh bien, il y a l'écoute qui va être la grande question du Pentateuque, hein, de l'histoire des patriarches, qui aboutira avec l'Exode, hein, avec la loi. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, l'unique Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Voilà. Je conclue. Le cardinal Lustiger, dans ce livre magnifique, La Promesse, écrit « Il n'y a d'histoire qu'en fonction d'un choix de Dieu ». Alors, on emploie le terme d'histoire sans trop savoir ce que ça veut dire souvent. Hein, pour nous, l'histoire, c'est la suite chronologique des événements. Ça, c'est la vue matérialiste qu'on nous a plus ou moins apprise dans notre culture rationaliste d'aujourd'hui. En réalité, il n'y a d'histoire, dit le cardinal Lustiger, qu'en fonction d'un choix de Dieu. C'est-à-dire un appel qui nous fait sortir du chaos, hein, et de l'insignifiance. Hein. Cardinal écrit également, sans ce choix de Dieu, tous les gestes humains sombrent dans l'insignifiance de l'oubli et de la mort. Eh bien, en choisissant Abraham et Israël qui en est issu, quand on parle d'Abraham, il faut voir aussi Israël qui est issu de ses reins, selon les termes de l'Épître aux Hébreux, Dieu a donné forme à l'histoire humaine. Il lui a ouvert une route sur laquelle toutes les nations de la terre sont appelées à s'engager. Une route dont le terme sera la ville pourvue de fondations dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà, écoutez, il est 22h04, mais comme nous perdons 4 minutes avec le rangement des tables, je pense que... Voilà. Hein. Et les complices, c'est quelle heure ?
22h.
C'est 22h ? Bon. En général, l'année dernière, à la fin, on était les premiers. Donc, est-ce qu'il y a une question quand même ou pas ? Alors, il y a une question grave que vous posez, qui vient à notre esprit.